Mesdames et messieurs, c'est par ici que ça...
Radio Capi.
Encore des combats entre les FARDC et les combattants du 1-23 soutenus par le Rwanda pour le deuxième jour consécutif ce mercredi. Les affrontements se déroulent dans les localités de Ndolouma et Kitsombiro, à près de 60 km de Lubero Centre. Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga et les partenaires en santé fignolent des stratégies pour intensifier la lutte contre le choléra. Depuis le début de cette année, plus de 1000 cas, dont 37 décès, ont été enregistrés dans la province. Et la maladie dite des mains sales continue de s'étendre dans le Haut-Katanga. Paulin Koenseou, porte-parole de l'UNICEF à Goma, est l'invité du journal. Il va parler de l'impact de la guerre sur les enfants et les conséquences sur leur bien-être en général. Bonjour à tous, au micro Noëlla Luzitu Kabambi. Nous commençons par le Nord Kivu où des combats intenses se poursuivent pour la deuxième journée consécutive ce mercredi entre le M23 soutenu par le Rwanda et les FARDC dans les localités de Ndolouma et Kitsombiro situées à environ 60 km de Lubero Centre. Ces combats qui se rapprochent de Lubero Centre poussent certains établissements scolaires à renvoyer les élèves avant l'heure habituelle de la fin des cours. André Kitenge nous fait le point.
La tension demeure encore vive à Ndolouma et Kitsombiro, deux villages situés à environ 60 km de Lubero Centre, où des violents combats opposent depuis ce matin les FARDC appuyés par les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales, les rebelles ont lancé des attaques simultanées en larguant des bombes tôt ce matin sur des positions des FARDC pour occuper Ndolouma et Kitsombiro où la situation reste confuse. Selon des sources locales et sécuritaires, les affrontements se déroulent encore dans les environs de ces deux villages où les hélicoptères de combat des FARDC ont été mises à contribution pour stopper l'avancée des rebelles du M23 sur l'axe Kitsombiro-Lubero Centre. Les mêmes sources indiquent que quelques soldats considérés comme des fouillards parmi les FARDC qui ont quitté leur position initiale ont été arrêtés. Pour le moment, d'autres combats sont également signalés entre Kitsombiro et Katundi, à une vingtaine de kilomètres de Lubero Centre. Face à cette énième escalade, un déplacement des populations a été observé ce matin vers des zones jugées sécurisées, indiquent nos sources sur place. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps au sud Kivu, la cité rurale de Kamanyola dans le territoire de Walungu est passée sous le contrôle du M23 hier tard dans la soirée selon plusieurs témoignages. Kamanyola est une voie d'accès facile à Uvira et au territoire de Fizi dans la partie sud de la province du sud Kivu. Par ailleurs, nos sources affirment que les pensionnaires de la prison centrale de Mulongé dans la ville d'Uvira se sont évadés ce mercredi. Kamanyola est une cité frontalière du Rwanda et du Burundi. Par ailleurs, la vie reprend doucement son cours normal dans la ville de Bukavu, 5 jours après son occupation par le M23 soutenu par le Rwanda. Selon plusieurs témoignages, la circulation des personnes et des biens se déroule normalement. Les services douaniers fonctionnent aux postes frontières Ruzizi 1 et 2. Quelques bureaux de services étatiques reprennent mais timidement. Beaucoup de commerçants ont perdu leurs capitaux dans le pillage. Ils ont difficile à redémarrer les activités, affirme-t-il. Cet habitant de Bukavu est joint au téléphone et il nous en dit plus.
Les gens sont en train de reprendre leurs activités petit à petit. Les transports en commun, le motard, les taxis bus ont repris. Donc le mouvement est en train de reprendre timidement. Je suis en train de faire moi-même un tour. Je suis au niveau du marché de Kadutu. Étant donné que les gens avaient pillé les dépôts, on appelle ça coopéra, jusque-là fermé. Mais les petits commerçants qui ont de petites histoires, ils sont en train de reprendre les activités. En tout cas, dans les centres-villes, tout est OK. Il faut seulement signaler qu'il y a certains voleurs, surtout les gens qui étaient dans la prison centrale et d'autres prisons, Mouzenze à Goma, qui sont dans la ville. Alors ces délinquants sont en train de déranger les gens pendant la nuit. Mais en tout cas, en général, la situation est calme.
Au Nord Kivu, la rupture de la connexion entre la ville de Goma avec d'autres provinces du pays a des incidences sur les producteurs et revendeurs de Goma. Plusieurs entrepreneurs expriment leur hésitation et leur découragement pour relancer leurs activités compte tenu de la baisse drastique des preneurs et des consommateurs. Les grands marchés d'écoulement se trouvent dans d'autres provinces en effet et deviennent déjà inaccessibles en raison de la fermeture de voies et axes stratégiques. Denise Loukesson.
Madame Bijou Salima, femme entrepreneur, ne peut plus fournir son beurre d'arachide aux alimentations de Bukavu.
Dans la situation actuelle,
On n'a pas moyen de produire en grande quantité, faute des moyens de transport pour amener le beurre d'arachide au niveau de Bukavu, sur le marché local, au niveau de Goma. Beaucoup de gens ne sont plus pour acheter. Et les clients aussi qui nous amènent les arachides, il n'y a pas moyen de nous amener encore en grande quantité, faute de la situation actuelle. C'est pourquoi on est bloqué.
Les activités dans les grandes fermes de production des saucisses, des fromages et du lait frais, pour ne citer que ces quelques produits phares du Kivu, tournent au ralenti pour les uns et sont carrément aux arrêts pour les autres, les voies d'écoulement quasi fermées. Pour le professeur Dadi Salé, il y a risque que les entrepreneurs tournent leur business vers les pays voisins où s'offrent actuellement les opportunités d'affaires.
Nous connaissons le dynamisme extraordinaire des entrepreneurs gomatraciens et que les dangers ici, c'est que ils risquent de reprendre en s'alliant plus au Rwanda, Kampala et à Nairobi, ce qui sera une perte pour la République démocratique du Congo.
Cet économiste dit craindre que cette situation profite encore aux entrepreneurs étrangers. Le professeur Dadi Salé recommande qu'il est temps pour la RDC d'avoir des politiques économiques de guerre pour faciliter les entrepreneurs congolais à se relever.
De leur côté, de nombreux jeunes de l'Ituri s'enrôlent au sein des FRDC et de la réserve armée pour la défense RAD en vue de combattre les ennemis de la RDC et défendre l'intégrité territoriale. C'est le résultat de la campagne de sensibilisation menée depuis environ 2 semaines dans la province par la RAD et les autorités provinciales avec l'appui des organisations locales. Les différents groupes armés sont également sensibilisés à déposer les armes pour intégrer ce processus pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC. C'est un reportage d'Isaac Rémo rendu par Sadiq Aboubakar.
Nous sommes au stade d'Amani de Bounia où une centaine de jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans ont été présentés comme échantillons de ceux qui se sont enrôlés dans l'armée. Bâtons en forme de fusil en main ou encore des AK-47 hors usage, ils scandent des chansons pour exprimer leur détermination à défendre la patrie. Des centaines d'autres suivent des formations militaires à l'état-major des FRDC et au site de Diango à 12 km de Bounia. Selon le directeur adjoint de la RAD en Ituri, la campagne de sensibilisation autour de l'éveil patriotique lancée depuis environ 2 semaines en Ituri porte déjà des fruits. Des volontaires pour l'armée et les réservistes se manifestent dans toutes les entités territoriales. À Mahagi, environ une centaine de jeunes ont déjà adhéré à la RAD. Ils attendent d'autres vagues pour débuter la formation. Même des anciens miliciens des différents groupes armés dont la CODECO, des Maïmaï, la FPIC, qui ont déposé les armes, ont intégré ces processus. Cette campagne de sensibilisation qui se tient chaque semaine se poursuit dans chaque quartier de la ville de Bounia et d'autres entités de la province en vue de mobiliser le maximum des jeunes. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
À Kinshasa, le gouvernement congolais dit avoir pris une série de mesures pour décourager la contrebande minière dans la partie est du pays. Le ministre des Mines a livré cette information lors du briefing de presse tenu hier à Kinshasa avec son collègue de la communication et médias. Parmi ces mesures, il a indiqué avoir, par exemple, signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques au niveau de l'Union européenne. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers cette démarche, indique le ministre des Mines, la RDC s'engage à assurer la traçabilité des minerais congolais via les moyens économiques et diplomatiques. Il compte notamment s'appuyer sur les mesures de la CIRGEL pour l'identification de l'origine des minerais afin de barrer la route à la commercialisation des minerais venus des zones rouges. Kizito Pakabomba.
Et dans le cadre de la CIRGEL, par exemple, et on peut demander à tout moment de vérifier, de faire des audits et des enquêtes pour nous assurer que ces minerais viennent bien de ce pays dans le cas d'espèce. Il y a toute cette mobilisation diplomatique auprès des États dont lesquels ces entreprises achètent pour pouvoir pointer, que ce soit dans le cadre des directives de l'OCDE.
Dans ces cadres, le gouvernement a initié des partenariats stratégiques, notamment avec la compagnie DRC Gold Trading, afin de maximiser la captation des ressources issues de l'exploitation aurifère et d'en garantir une exploitation responsable et bénéfique pour le pays. Le ministre Kizito a par ailleurs mentionné avoir signé le 12 février courant un arrêté identifiant les zones rouges. Ceci permet à la RDC, dans le cadre des accords, d'assurer que les minerais sont issus des zones de conflit et ne répondent pas à la diligence raisonnable.
En cette période de guerre dans l'est de la RDC, le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, décide de la mise en place d'une cellule de crise et de solidarité en rapport avec la situation des magistrats. Il a passé au peigne fin plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion hier avec certaines résolutions prises avec tous ses membres à la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu de cette réunion du CSM avec vous, Jeff Ngoy.
Parmi les points examinés, le secrétaire permanent du Conseil signale la situation des magistrats indépendants ainsi que des agents de l'ordre judiciaire face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. L'opération don de sang des magistrats pour participer à l'élan de solidarité nationale et d'aide aux blessés de guerre, l'actualisation des listes des candidats magistrats, session 2024, l'affectation des juges dans des juridictions inférieures aux tribunaux de grande instance et tribunaux de paix, l'état d'avancement du dossier d'assurance maladie et assurance obsèques avec la société Activa. La cellule de crise a donc pour mission notamment de récolter et centraliser toutes les informations sur la situation des magistrats afin d'élaborer des stratégies pour leur sécurité directe, de prendre en charge ceux qui séjournent à Kinshasa, dans d'autres villes et à l'étranger. Les magistrats renouvellent leur loyauté et disponibilité à poursuivre leur participation à l'effort de la consolidation de l'état du droit. Le bureau du CSM décide également de régulariser les cas des candidats magistrats retenus après leur contrôle physique avant de transférer leur dossier au président de la République pour nomination.
L'épidémie de choléra continue à s'étendre dans la province du Haut-Katanga. Depuis les débuts de l'année, plus de 1505 cas, dont 37 décès, ont été enregistrés. Pour y faire face, le ministre provincial de la Santé et les partenaires en santé peaufinent des stratégies pour intensifier la lutte contre le choléra, appelée aussi maladie des mains sales. C'est notamment la sensibilisation de la population pour l'assainissement des milieux et le respect des mesures d'hygiène. Cette question a été débattue le lundi au cours de la réunion multisectorielle de lutte contre l'épidémie de choléra. D'autres détails avec le médecin inspecteur provincial du Haut-Katanga, Thérèse Kailanyanga, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
La surveillance épidémiologique montre en plus l'urbanisation de l'épidémie dans toutes les trois villes de la province à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, sans épargner les zones de santé rurales. 45% des positivités des échantillons prélevés, plus de 50% des cas de décès dans la communauté et les recours tardifs au niveau des structures de soins nous appellent à une surveillance accrue dans nos milieux respectifs. Par rapport à la prise en charge, des centres de traitement sont mis à disposition à la Kenya, à Kisanga, à Poleni, à Mounoua, à Chamilemba en préparation pour une prise en charge médicale et nutritionnelle gratuite. Le renforcement des capacités des prestataires ainsi que de la logistique en lien avec les intrants à prépositionner et les moyens de transport des cas. Les dispositions sont prises pour accroître la désinfection des ménages, la potabilisation de l'eau par chloration, l'installation des sites de réhydratation orale dans la communauté, ainsi que des enterrements dignes et sécurisés.
Depuis quelque temps, des buffles ravagent des champs des paisibles paysans dans le territoire de Kasongolunda, particulièrement dans le secteur de Panzi, province du Kwango. Selon l'administrateur de cette entité qui alerte, cette situation est aussi parmi les causes de la rareté des produits agricoles dans ce coin de la province, créant ainsi la malnutrition chez les habitants. Arsène Koukanguidila parle de refoulement comme mesure pour éloigner ces bêtes. Il dit avoir fait le rapport au niveau du gouvernement provincial à qui il demande de tout faire pour refouler ces buffles. Irène Bomaluzolo pour plus d'explications.
C'est une situation préoccupante pour les habitants du territoire de Kasongolunda, précisément ceux vivant dans les groupements de Kapemba situés dans la partie sud du secteur de Panzi. Nous sommes dans la province du Kwango. Ici, des buffles en circulation entre cette province et les pays voisins d'Angola commettent d'énormes dégâts qui affectent même la survie de la population. Selon l'administrateur de Kasongolunda qui alerte, ces bêtes ravagent sauvagement les champs des paisibles citoyens qui ne savent à quel sein se vouer. Il s'agit entre autres des champs de manioc, de maïs, d'arachide et bien d'autres cultures. Situation qui, selon Arsène Koukanguidila, est à la base de la rareté des produits agricoles qui occasionne aussi la malnutrition aiguë, sévère et chronique qui bat son plein dans ces coins du pays. Préoccupé, il en appelle à l'intervention du gouvernement provincial pour le refoulement de ces buffles.
Il y a beaucoup de buffles qui ravagent les champs. Même si les gens cultivaient, les buffles viennent ravager et ça pose aussi un sérieux problème. On est dans ce processus de refoulement et je pense que le gouvernement provincial va prendre prend des mesures pour les refoulements.
À en croire l'autorité territoriale de Kasongo-Lunda, cela fait déjà plusieurs années que les bifles détruisent les champs agricoles dans le secteur de Panzi. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Union africaine UA dénonce ce mercredi les crimes de guerre et crimes contre l'humanité incessants au Soudan, pays ravagé par une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés depuis le mois d'avril de l'année 2023. Alors que l'armée contrôle l'est et le nord du pays, les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, une vaste région de l'ouest du pays où vivent un quart des 50 millions de Soudanais. Le Conseil paix et sécurité de l'UA, basé à Addis Abeba en Éthiopie, avait tenu vendredi une réunion sur la guerre au Soudan, qualifiant le conflit en cours de pire crise humanitaire au monde, avec des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë. Plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis ou l'Éthiopie, ont appelé à une trêve humanitaire durant le Ramadan qui commence à la fin du mois de février.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Paulin Kosseou. Il est le porte-parole de l'UNICEF à Goma. Il revient sur l'impact de la guerre sur les enfants et les conséquences sur leur bien-être en général. Paulin Kosseou s'entretient avec Ronéline Tibonera.
Monsieur Paulin Kosseou, bonjour.
Bonjour.
Depuis 3 ans, l'Est de la République démocratique du Congo connaît une recrudescence des violences, une situation qui s'est aggravée cette année avec l'intensification des combats dans le Sud Kivu. Quel impact ces violences ont-elles eu sur la vie des enfants?
Comme vous savez, en situation de violence comme celle-là, les enfants sont ceux qui payent le plus le prix en fait de ces situations-là. Je vous donne quelques éléments concrets. Généralement, après ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu, les parents fuient avec leurs enfants pour essayer de se mettre à l'abri. Pendant ces fuites, de nombreux enfants sont séparés de leurs parents. On a noté ici à Goma, par exemple, de nombreux enfants dans les hôpitaux qui ont été blessés. Et il a fallu qu'on commence à travailler pour essayer de retrouver leurs parents. Donc les séparations familiales sont une conséquence dramatique de ces situations. Évidemment, dans ces situations-là aussi, à cause de l'insécurité, les écoles sont fermées, ce qui pose un problème bien particulier pour l'avenir des enfants. On espère que les écoles pourront réouvrir très rapidement pour que les enfants continuent à vaquer à leurs occupations scolaires, parce qu'il en va de leur avenir, mais c'est aussi un élément qui permet de les détraumatiser de tout ce qui a pu se passer. Si je considère l'aspect de la protection, vous savez, dans les situations de séparation familiale que j'ai décrites tout à l'heure, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et peuvent très facilement tourner vers d'autres horizons qui ne sont pas forcément les meilleurs pour leur futur et pour leur développement. Après maintenant, je vais peut-être finaliser mon point en parlant des conséquences qu'il y a sur le côté nutritionnel, sur l'aspect sanitaire. Comme vous le savez, le Nord et le Sud Kivu, c'est des foyers des épidémies. Donc, en situation de crise comme celle qu'on a connue, voilà, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, comme je vous ai dit. Les structures de soins ne sont pas forcément toujours à jour pour pouvoir les prendre en charge, ce qui fait que les risques que connaissent les enfants dans ces situations-là sont particulièrement dramatiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec la communauté humanitaire et avec les différents partenaires, on essaye d'apporter une assistance dans tous ces domaines, que ce soit en nutrition, que ce soit en protection de l'enfant, que ce soit en eau, hygiène, assainissement, qui est un point très, très important, mais aussi en éducation, pour s'assurer que les enfants continuent à mener une vie à peu près normale malgré les circonstances.
Mettons un accent particulier sur le plan éducatif. La destruction des sites déplacés à Goma a contraint les nombreuses familles à retourner dans leur village d'origine. Ces enfants ont-ils aujourd'hui un accès effectif à l'éducation?
Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc je ne peux pas commenter là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a un grand défi aujourd'hui, c'est de s'assurer que les enfants des familles ont accès à une éducation. Que ce soit quand ils sont dans les sites de déplacés à Goma ou bien quand ils sont de retour dans leur zone d'origine. Je pense que c'est un gros défi qui doit être relevé. Il faut déjà identifier où sont parties ces familles. Est-ce qu'ils sont rentrés effectivement dans leur zone d'origine? Est-ce qu'ils sont avec les familles d'accueil à Goma? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et une fois que ces questions trouvent des réponses, on peut maintenant réfléchir à comment appuyer de façon coordonnée pour que ces enfants-là retrouvent le chemin des bancs. mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Plus de 400 000 enfants sont hors du circuit scolaire ou ont vu leur circuit d'éducation perturbé. Est-ce qu'il y a un programme spécial auquel pense l'UNICEF pour encadrer ces enfants en cette période marquée par des violences dans l'Est de la RDC?
Les chiffres sont assez impressionnants et vous doutez bien que l'UNICEF tout seul ne peut pas répondre à ce besoin, mais l'UNICEF, en coordination avec tous les partenaires, essaye de trouver des financements pour pouvoir mettre en place des programmes d'éducation, que ce soit l'éducation d'urgence, mais aussi renforcer les différents structures étatiques qui travaillent dans le domaine de l'éducation, les PSC et tous les autres. Donc, c'est un grand défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il en va de l'avenir de ces enfants et il faut qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'ils retournent à l'école. C'est ça à quoi nous attachons en ce moment.
52 millions de dollars, est-ce que c'est suffisant pour ce qui concerne les conséquences de cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu?
Je ne sais pas si c'est suffisant, mais ce que je peux dire, c'est que certaines écoles qui ont été endommagées, il faut les réhabiliter, il faut travailler avec les institutions gouvernementales qui sont en charge de l'éducation pour s'assurer que l'école recommence. Donc voilà, je pense que les dommages sont assez importants. J'espère que nous aurons aussi auprès de la communauté internationale suffisamment de moyens pour pouvoir faire ce travail qui n'est pas facile, qui est coûteux.
Monsieur Paulin Kossou, merci.
Et c'est la fin de ce journal, un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Alain Goy, sous la coordination de Élisée Chikota et un journal supervisé par Alain Irungo. Merci de nous avoir suivis.